Le documentaire We Feed the World pourrait bien vous dégoûter à jamais de manger du poulet élevé en batterie. Mais c'est surtout un documentaire sur le marché de la faim qui questionne chaque spectateur sur ses modes de consommation en montrant les absurdités et décalages au niveau mondial du mode de production capitaliste et industrialisé et l'exploitation cynique du Sud par le Nord. Un exemple, le Brésil, premier exportateur de soja au monde, a déforesté l'équivalent des superficies de la France et du Portugal depuis 1975, tout ça pour nourrir les cheptels des pays européens. Rencontre avec le réalisateur, Erwin Wagenhofer, traduit de l'autrichien par Martina Wachendorf, responsable d'édition à Actes Sud. Dans We Feed the World, vous reprenez à votre compte de façon ironique le slogan d'une grosse firme de semences, et vous montrez une compilation de situations qui montre l'exploitation des ressources du Sud par le Nord. Comment avez-vous sélectionné les endroits géographiques, les sujets pour illustrer de la question alimentaire mondiale et des méfaits de la mondialisation ?
La structure du film est extrêmement stricte en fait. Il y a un prologue, 5 chapitres, et ensuite un épilogue qui va revenir vers les problématiques dont on parle dans le prologue. Les 5 chapitres sont vraiment liés à cette notion du monde qui est déjà dans le titre. Par exemple, en Bretagne, c'est la meilleure eau du monde jusqu'à présent pour pêcher. En Espagne, c'est le plus grand terrain du monde pour cultiver les légumes. En Roumanie, c'est le plus grand producteur de semences. Et au Brésil, c'est le plus grand producteur du soja du monde. Et Ziegler, c'est le plus grand expert de la famine au monde. Nestlé, c'est la plus grande société alimentaire du monde. Donc c'était ça le critère pour choisir ces lieux et ces personnes.
Et est-ce qu'il vous a été difficile de rentrer en contact avec les personnes qui sont interviewées dans votre documentaire? On reviendra sur Jean Ziegler après dans une autre question, mais sur les travailleurs et aussi les PDG comme de Nestlé, est-ce que ça a été compliqué?
C'est vrai que le plus dur est d'entrer en contact avec ces personnes. Après, une fois on est à le contact, c'est plus grand chose à faire en fait, tourner un film. Et c'est la raison pour laquelle ça dure 2 ans et demi parfois de faire un film. Il faut vraiment avoir de la patience, il faut tenir le coup. De toute façon, je pense que tenir le coup, c'est peut-être beaucoup plus important pour un cinéaste, donc de perdurer, d'avoir la patience, que le talent. Effectivement, c'était difficile pour entrer en contact.
Et Jean Ziegler, qui est le rapporteur à l'ONU pour la question alimentaire, intervient plusieurs fois dans votre film. Il est un peu le fil conducteur. Comment s'est passée cette collaboration? Est-ce que c'est vous qui avez voulu qu'il soit présent dans ce documentaire? Ou est-ce que c'est lui aussi qui a souhaité participer à un documentaire sur ce sujet-là, puisqu'il a des choses très graves et très importantes à dire qui sortent un peu du discours conventionnel? Donc est-ce que ça a été une collaboration? Est-ce qu'il a participé aussi à l'écriture du scénario?
Non, donc la participation de Ziegler ne dépasse pas du tout ce qu'on voit dans le film. En fait, il n'a pas participé plus que les autres participants. En fait, je le connais depuis très longtemps dans la mesure où j'ai suivi son travail. En 2004, au moment où j'étais déjà en train de tourner le film, je l'ai contacté pour l'interviewer. Et c'est à ce moment-là, on a fait un jour de tournage et c'est tout. Donc il n'y a pas plus de participation.
Mais son anteil au film est exactement ce qui est dans le film.
Ici en France ou dans les pays du Nord en général, on est pris dans le système de production agricole et en fait nos sociétés d'agriculture industrielle pillent les sociétés agraires qui existent encore aujourd'hui dans le monde. Et au niveau individuel, donc en tant que société civile, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour refuser ce système-là? Est-ce qu'on a vraiment des alternatives? Donc est-ce que c'est inciter les gens à changer leur mode de consommation au quotidien, en s'orientant soit vers le biologique, mais pas forcément aussi vers l'agriculture de ses propres pays, de suivre les saisons.
Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir en général sur le système économique. C'est ça la base de tout. Pour le moment, il y a constamment une croissance économique, mais en fait, les populations rétrécissent. En France, il y a 1,4 de taux de croissance de la population. Deuxièmement, dans ce système, c'est donc l'homme qui sert l'économie et non l'économie, l'homme. En fait, si on fait tout ça, l'économie, les outils et tout ce qu'on a inventé, c'est en fait pour servir l'homme. Mais en regardant de près le système, on voit que c'est l'homme qui est asservi à ce système. Et troisièmement, on peut dire qu'après la guerre, il y a 60 ans de croissance économique, mais comme on voit aussi dans le film, les hommes ne sont pas heureux avec ça, malgré une croissance constante. Dans le film, je n'ai pas voulu montrer des activistes, des gens qui ont déjà des certitudes par rapport à ça. J'ai voulu montrer le système de l'intérêt. Toutes les personnes qui sont interviewées ne sont pas heureux avec le système, même s'ils sont à une place supérieure du système, notamment le directeur de Nestlé. Donc on voit très bien que même lui, il râle. Mais évidemment, les paysans, Corpus et toutes ces personnes sont en fait mécontents. La réflexion par rapport au système est
primordiale. Dass das System falsch ist.
Mais si justement on ne veut pas participer à la continuité de ce système économique et d'exploitation, le but du film c'est d'inciter les gens à changer leur mode de consommation. Est-ce que ça ce sera suffisamment puissant contre des discours comme défend le PDG de Nestlé?
Das würde komplett reichen, wenn wir mal den Begriff konsumieren überdenken.
D'abord, il faudrait mettre en question justement la notion de ce que ça veut dire consommer. La consommation, est-ce que nous voulons consommer? Est-ce que nous voulons être des consommateurs? Est-ce que ce ne serait pas plutôt de vouloir utiliser ce dont nous avons vraiment strictement besoin pour notre vie? Par exemple, quand on voit le directeur de Nestlé à la fin du film, il insiste beaucoup, jamais encore les gens ont vécu aussi longtemps, jamais encore les gens ils ont eu autant à manger, etc. Mais qui? C'est qui? Il parle de qui, là? Est-ce que ce ne sont pas plutôt seulement quelques dirigeants qui vivent plus longtemps? Donc, il faut remettre en question cette notion même de consommation.
Wenn wir dann die Erde verlassen, ist sie auch weniger verbraucht und weniger verkonsumiert, sondern eventuell ein Stück besser geworden. Das wäre die Idee.
Махаешь руками, мечтая о крыле. В темноте твою бродит, мечтая о небе. В темноте твою бродит, а мечты в небесах. В темноте твою бродит, но летишь.
Et par rapport à la question de la faim dans le monde, Jean Ziegler défend l'idée que ce ne sont pas des enfants que l'on laisse mourir de faim tous les jours, mais ce sont réellement des enfants qu'on assassine tous les jours en ne faisant rien. Comment faire pour vraiment essayer de réduire cette faim dans le monde, si ce n'est la faire disparaître? Est-ce que là, il y a une nécessité d'un rôle institutionnel joué par le FAO ou l'ONU?
Also, was der Weg ist, kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Die UNO ist ein
Je ne sais pas exactement si ces organisations sont la solution. En même temps, on a l'impression que, par exemple, l'ONU, c'est un tigre sans dents. Mais en même temps, c'est peut-être ces endroits-là, ces organisations-là, où on peut encore trouver un recours pour parler des droits de l'homme et de la faim, la preuve avec Ziegler. Donc, c'est difficile à dire. En même temps, si Ziegler parle de du fait que quand on tue les enfants, ce qu'il veut exprimer, c'est par exemple, la faim a toujours existé. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en fait, dans mon pays, en Autriche, par exemple, mes propres parents ont eu faim, ils ont connu la faim. Moi, je suis la première génération à ne pas avoir connu la faim. Ce qui est nouveau maintenant ici, c'est que nous sommes capables, avec la production alimentaire, de nourrir en fait 12 milliards de personnes. Mais voilà, 6,3 milliards. Donc chaque personne qui a faim, c'est absurde. Malgré une production croissante, il y a les cadavres des morts qui sont de plus en plus grands. Donc le problème est politique. C'est véritablement une action politique dont on a besoin.
Mit anderen Worten, das wäre mit politischen Dingen zu lösen, wenn man will.
Et par rapport à la question de l'eau, qu'est-ce qu'on peut envisager après avoir vu dans votre documentaire le PDG de Nestlé dire que l'eau est une denrée alimentaire et donc elle doit se marchander et qui réfute toute idée de partage des eaux ou de nationalisation quand on sait que c'est une idée partagée par beaucoup de personnes qui justement sont les maîtres de la distribution de l'eau, comment on peut espérer régler ce problème de l'eau qui est fondamental dans le monde?
Also die Privatisierung des Wassers sprechen Sie an. Hier kann man wieder nur mit
l'appareil, c'est la politique, also, donc il faut savoir si on devrait permettre ça. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des lois qui interdisent ça? Parce qu'en fait, c'est quoi ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent acheter l'eau pour le posséder et en plus avoir le droit de le distribuer. Ou bien, on considère que ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin absolument pour vivre et que c'est quelque chose que la nature nous donne. Vous pouvez vivre 3 minutes sans air et 3 jours sans eau. Donc, ça fait partie des choses indispensables pour la vie même. Donc, une privatisation de ça, ça semble quand même vraiment pervers. Pourquoi les grands groupes sont en train de mettre la main sur ces ressources? Parce que c'est en fait, ils savent que leur argent, l'argent qu'ils gagnent, est assez fragile. Avec les mouvements à la bourse, il peut y avoir un crash boursier. Du coup, leur argent, ça ne vaut plus rien. Donc, en possédant les ressources, il leur reste toujours quelque chose, tout en sachant que tout ça, ça a été produit par la communauté des hommes. Par exemple, les routes, etc., c'est les États et la société civile qui a payé. La question, effectivement, est-ce que politiquement, on peut laisser faire cela? Très, très question très difficile.
Und wir mit ihnen zulassen oder nicht? Difficile problème.
Il y a eu d'autres documentaires qui sont sortis assez récemment sur ce thème de la mondialisation et de l'exploitation du Sud par le Nord. On a pu parler aussi de Notre Pain Quotidien qui reprend qui a des scènes similaires. Est-ce que vous envisagez l'idée de peut-être après créer une sorte de regroupement de documentaristes qui sont sensibilisés par le même sujet et qui vraiment pour essayer de... Enfin, comme le but c'est quand même de conscientiser la société civile, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour ils s'associent pour une sorte de collectif pour diffuser des documentaires de plus en plus acérés?
On peut s'associer pour la même cause.
Damit alle sich alle zusammen schließen und
Also diese Idee, von der Idee weiß ich nichts. Ich glaube auch nicht, dass sie so schnell auf uns zukommen wird. Weil die Filmemacher untereinander ein ähnliches Verhalten
zeigen. Je doute fort que ce serait possible, parce qu'en fait, les créateurs de films documentaires, entre eux, ils sont plutôt en concurrence et qu'ils sont pas vraiment prêts à collaborer de cette façon ensemble. Et peut-être, ça aurait pas vraiment de sens non plus, parce que finalement, l'essentiel, c'est que si chacun s'engage à filmer des sujets importants dont il est persuadé, et à les distribuer surtout. Aujourd'hui, ce genre de film est quand même vraiment attendu par le public. Je pense que c'est ça qui est peut-être important, ce mouvement qui est chez le spectateur, qui attend ça, qui a envie de ça. Du coup, c'est ça le sens d'un mouvement entre les gens, et c'est peut-être pas seulement les films, dans d'autres domaines il y a des gens qui se battent, qui font des sujets importants, et peut-être si nous faisons un film en commun, ce serait peut-être pas forcément un meilleur film, parce que du coup c'est un peu
un bateau. Si je fais 10 films ensemble et puis sur un film arbeiten, je ne sais pas si c'est mieux que si ob das Ergebnis besser wäre, wie wenn alle 10 einen eigenen Film machen und da sind dann vielleicht 3 gute dabei.
Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de livres. Et d'ailleurs, moi, avec ma deuxième casquette d'éditrice, je voudrais, moi, ajouter que donc Erwin Wagenhofer a donc écrit un livre qui accompagne le film et qui le complète. Parce que dans le livre qui s'appelle donc Le marché de la faim et que nous avons publié chez Actes Sud, il y a 80% d'informations en plus que dans le film. Il y a plusieurs d'autres éléments qui sont considérés dans ce livre, notamment le lait et la viande.
Pour finir, est-ce que vous êtes déjà en train de préparer un autre documentaire ou est-ce que vous avez des idées concernant des documentaires futurs?
Il y a deux projets en cours. Il y en a un qui est plutôt de la fiction et le deuxième, c'est un documentaire. Et c'est toujours pareil, là où termine un film, il y a le prochain qui commence. Le prochain va commencer avec l'argent et les marchés financiers.
Avec plaisir, à bientôt sur les écrans et bonne continuation.
Merci.
Vous pouvez voir le documentaire We Feed the World, le marché de la faim, au cinéma Les Variétés. Pour tout renseignement concernant les séances, n'hésitez pas à appeler le 04 96 11 61 61.